pas de craie, qui, non sans étonnement et sans indignation de leur part, était écrit sur la porte en caractère de craie, cette impudente craie qui osait se déclarer absente. Non que la faculté de déchiffrer les caractères écrits, faculté considérée parmi le peuple de ce temps comme un peu moins cabalistique que l'art de les tracer, eût pu en stricte justice être imputée aux deux disciples de la mère, mais il y avait, pour dire la vérité, un certain tortillement dans la tournure des lettres et, dans l'ensemble, je ne sais quel indescriptible embardé, qui présageait, dans l'opinion des deux marins, une sacrée secousse et un sale temps, et qui les décidèrent tout d'un coup, suivant le langage métaphorique de l'Aigle, à veiller aux pompes, à serrer toute la toile et à fuir devant le vent. En conséquence, ayant consommé ce qui restait d'elles et solidement agrafé leur cours pour point, finalement, ils prirent leur élan vers la rue. Tarpoulin, il est vrai, entra deux fois dans la cheminée, la prenant pour la porte, mais enfin, leur fuite s'effectua heureusement, et une demi-heure après minuit, nos deux héros avaient paré au grain et filé rondement à travers une ruelle sombre dans la direction de l'escalier Saint-André, chaudement poursuivi par la tavernière du Joyeux Loup de Mer. Bien des années avant et après l'époque où se passe cette dramatique histoire, toute l'Angleterre, mais plus particulièrement la métropole, retentissait périodiquement du cri sinistre
« La peste !»
La cité était en grande partie dépeuplée, et dans ces horribles quartiers avoisinant la Tamise, parmi ces ruelles et ces passages noirs, étroits et immondes, que le démon de la peste avait choisis, supposait-on alors, pour le lieu de sa nativité, on ne pouvait rencontrer, se pavanant à l'aise, que l'effroi, la terreur et la superstition. Par ordre du roi, ces quartiers étaient condamnés, et il était défendu à toute personne sous peine de mort de pénétrer dans leurs affreuses solitudes. Cependant, ni le décret du monarque, ni les énormes barrières élevées à l'entrée des rues, ni la perspective de cette hideuse mort qui, presque à coup sûr, engloutissait le misérable qu'aucun péril ne pouvait détourner de l'aventure, n'empêchaient les habitations démeublées et inhabitées d'être dépouillées par la main d'une rapine nocturne, du fer, du cuivre, des plombages, enfin, de tout article pouvant devenir l'objet d'un lucre quelconque. Il fut particulièrement constaté, à chaque hiver, à l'ouverture annuelle des barrières, que les serrures, les verrous et les caves secrètes n'avaient protégé que médiocrement ces amples provisions de vins et liqueurs, que, vu les risques et les embarras du déplacement, plusieurs des nombreux marchands ayant boutique dans le voisinage s'étaient résignés, durant la période de l'exil, à confier à une aussi insuffisante garantie. Mais, parmi le peuple frappé de terreur, bien peu de gens attribuaient ces faits à l'action des mains humaines. Les esprits et les gobelins de la peste, les démons de la fièvre, tels étaient pour le populaire les vrais suppôts de malheur. Et ils se débitaient sans cesse là-dessus des contes à glacer le sang. Si bien que toute la masse des bâtiments condamnés fut à la longue enveloppée de terreur comme d'un suaire, et que le voleur lui-même, souvent épouvanté par l'horreur superstitieuse qu'avaient créée ses propres déprédations, laissait le vaste circuit du quartier maudit aux ténèbres, au silence, à la peste et à la mort. Ce fut par l'une des redoutables barrières dont il a été parlé, et qui indiquait que la région située au-delà était condamnée, que l'Aigle et le digne Hugues Tarpaulin, qui dégringolaient à travers une ruelle, trouvèrent leur course soudainement arrêtée. Il ne pouvait pas être question de revenir sur leurs pas, et il n'y avait pas de temps à perdre, car ceux qui leur donnaient la chasse étaient presque sur leurs talons. Pour des matelots pur sang, grimper sur la charpente grossièrement façonnée n'était qu'un jeu. Et, exaspérés par la double excitation de la course et des liqueurs, ils sautèrent résolument de l'autre côté, puis reprenant leur course, ivres, avec des cris et des hurlements, s'égarèrent bientôt dans ces profondeurs compliquées et malsaines. S'ils n'avaient pas été ivres au point d'avoir perdu le sens moral, leurs pas vacillants eussent été paralysés par les horreurs de leur situation. L'air était froid et brumeux. Parmi le gazon haut et vigoureux qui leur montait jusqu'aux chevilles, les pavés déchaussés gisaient dans un affreux désordre. Des maisons tombées bouchaient les rues. Les miasmes les plus fétides et les plus délétères régnaient partout. Et grâce à cette pâle lumière qui, même à minuit, émane toujours d'une atmosphère vaporeuse et pestilentielle, on aurait pu discerner, gisant dans les allées...